Place Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Olivia Ferrandi.
Bonsoir à tous. Retranché entre guillemets depuis une semaine dans sa résidence du fort de Brégançon, Emmanuel Macron sortira de son silence demain lors de la traditionnelle allocution des vœux aux Français. L'Élysée promet d'ores et déjà un message d'apaisement face à la crise autour de la réforme des retraites. Mais la plupart des syndicats n'ont qu'un seul souhait, la suppression de cette réforme. Est-ce réaliste? Quelles concessions le président pourrait-il faire? On en débat ce soir avec vous, Jannick Alimi, rédactrice en chef adjointe au Parisien aujourd'hui en France. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Nathalie Moret, journaliste politique au bureau parisien du groupe Bras, qui regroupe les journaux régionaux de l'Est de la France. Bonsoir à vous. Florian Silnicki, fondateur de l'agence de communication de crise, la Frenchcom, est également dans ce studio. Bonsoir. Bonsoir. Ensemble, nous évoquerons aussi l'hôpital en crise. 54% des infirmières et des aides-soignants ne sont pas satisfaits de leur travail, selon un sondage Odoxa pour Le Figaro et France Info. Et puis, on reviendra sur la polémique autour de l'écrivain Gabriel Matzneff. Il s'exprime aujourd'hui dans les colonnes du Parisien pour défendre, dit-il, la beauté de son amour avec Vanessa Springora. Ce sont ses mots. Vanessa Springora, une adolescente de 14 ans à l'époque. Aujourd'hui, elle sort un livre dont on vous révélera le contenu plus précisément. Bienvenue donc à la table des informés. Depuis le début du mouvement de contestation sociale le 5 décembre dernier contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron ne s'est quasiment pas exprimé, sauf pour appeler à une trêve de la grève dans les transports il y a un peu plus d'une semaine et pour dire un mot sur le statut particulier des militaires lors de son réveillon en Côte d'Ivoire avec les troupes françaises le 21 décembre dernier. Plusieurs ministres sont montés au créneau pour défendre la réforme. Édouard Philippe, le Premier ministre, également. Mais c'est peu de dire, Jannick Alimi, que la parole présidentielle est très attendue sur cette réforme.
La parole est très attendue parce que, comme vous le disiez, Olivier, alors sans aller jusqu'à utiliser le mot que vous aviez utilisé, si je puis me permettre, retranché au fort de Brégançon, c'est un peu fort. Il n'est pas attaqué sous la mitraille, à devoir se protéger. Non, je pense qu'il a
mais
pris...
Mais il est un petit peu à l'abri.
Peut-être, oui, certainement à l'abri, quoique tout le monde le vise, et tout le monde le cible et tout le monde l'attend. Donc c'est un abri quand même relatif. En tout cas, il fait attendre sa parole, vous avez totalement raison, et son image également. Certains diront sa solitude, d'autres diront son isolement. Toujours est-il qu'il a intérêt, et il a eu le temps... il a intérêt donc à bien préparer ce qu'il va dire demain, mais d'un autre côté, que ça dure 7, 8 ou 18 minutes, que peut-il dire pour remettre les grévistes au travail, parce que c'est ça finalement qui compte d'abord, c'est donner l'impression qu'on règle une crise sociale. Mais ce que nous dit aujourd'hui en tout cas l'Élysée, c'est qu'il va garder le cap. Donc ça peut paraître une sorte de quadrature du cercle, et le président demain devra trouver les mots, les images, et pour le coup, alors je me tourne vers vous Florian Silnicki, la communication, le ton, peut-être les expressions qu'il faut pour passer de grand mistigris, de méchant président, à quelqu'un qui, au contraire, va porter sur les fonts baptismaux une réforme qui, à l'origine, dans l'esprit d'Emmanuel Macron, se voulait juste, équilibrée, équitable, tout ce que les Français ne comprennent pas aujourd'hui.
Florence Silnicki, un président déterminé, mais plus juste?
C'est intéressant cet axe parce que c'est celui, la justice sociale, choisi par Édouard Philippe pour présenter cette réforme. Et ensuite, ils ont entamé un tournant très brutal dans leur communication politique pour défendre cette réforme et ils l'ont oublié. C'est une réforme qui est complexe et qui a, à mon sens, manqué de pédagogie. Et l'enjeu de ce rituel républicain inventé par le général de Gaulle en 1960, c'est évidemment pour Emmanuel Macron d'avoir quelques mots de compassion et de pédagogie pour les Français à l'heure où il a plus plutôt réussi à se mettre en retrait, à utiliser le Premier ministre dans son rôle constitutionnel de fusible, parce que Emmanuel Macron, il a jusque-là plutôt concentré toutes les attaques, toutes les critiques qui s'exprimaient dans la rue. Il s'exprime, mais comme un peu tous les présidents avant lui, dans un contexte difficile, celui des grèves, du blocage des transports, des gilets jaunes qui continuent à se mobiliser samedi après samedi. Et son message, ce sera évidemment celui de l'unité nationale. Tous les présidents de la République ont eu ce message de l'unité nationale. Je ne vois pas pourquoi au fond, Emmanuel Macron s'en priverait, mais c'est un moment particulier qui est attendu des Français, qui fait toujours beaucoup d'audience, et on est au cœur des foyers. Il faut donc en profiter pour faire passer le message le plus compassionnel et empathique possible, ce dont a un peu manqué Emmanuel Macron jusque-là, avec des formules qui ont pu paraître dans l'opinion publique arrogantes ou déplacées, ce qui est toujours son paradoxe, parce qu'il était plutôt sur l'axe de la restauration de l'autorité présidentielle depuis son élection.
Nathalie Moret, vous espérez, vous attendez un président plus humble peut-être demain ?
Alors, je vous rappelle que c'est quand même un petit peu ce qu'on nous a promis, puisque c'est l'acte 2 du quinquennat. L'acte 2 du quinquennat, c'est censé être un quinquennat qui est plus à l'écoute, plus dans l'apaisement et plus dans le dialogue. Donc normalement, ça pour l'instant ce sont des mots qui existent depuis 6 mois maintenant. Ce qu'on attend demain, enfin ce que j'en attends demain avec ses vœux présidentiels, c'est de passer de la parole aux actes. On va voir si effectivement le président Macron arrive à être plus dans l'écoute et dans l'empathie.
On poursuit ce débat dans un instant. 20h10 sur France Info. L'essentiel de l'info, c'est avec Steven Gouailly.
Pas de trêve du nouvel an dans la mobilisation des cheminots contre la réforme des retraites. La moitié des TGV et des TER assurés demain, d'après la SNCF, au 27e jour du mouvement. Un quart des Transiliens en circulation en région Île-de-France. Le mouvement de blocage des raffineries amené à se durcir. Sur France Info, le délégué central CGT chez Total, Thierry Defresne, appelle à un blocage total entre le 7 et le 10 janvier. Pas d'expédition de carburant pour 2 raffineries sur 8 dans l'Hexagone en ce moment. À Lamède, dans les Bouches-du-Rhône et Grand Puy, en Seine-et-Marne. La mairie de Paris réclame un audit sur l'explosion rue de Trévise. Ses services de voirie sont mis en cause par un rapport d'experts suite à la rupture d'une canalisation de gaz. Le drame avait fait 4 morts et 66 blessés. La municipalité entend établir les responsabilités dans la gestion des opérations de voirie. 3 personnes toujours portées disparues au large du Gros du Roi dans le Gard, parties faire du jet ski, n'ont plus donné de nouvelles depuis samedi. Le centre régional de surveillance annonce la suspension des recherches en mer. La France compte un peu plus de 66,5 millions d'habitants, résultat du recensement 2007-2017 publié par l'INSEE aujourd'hui. Sur cette période, l'Hexagone a gagné près de 300 000 personnes chaque année. Une réunion urgente pour la Ligue arabe sur la question libyenne à la demande de l'Égypte suite aux accords de coopération signés entre Tripoli et Ankara pour un déploiement de troupes turques dans le pays. La Turquie entend aider le régime en place à lutter contre la présence des troupes du maréchal Haftar dans l'est du pays.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Olivia Ferrandi.
Et le message de vœux aux Français du président de la République attendu demain, très attendu cette année en raison de la contestation autour de la réforme des retraites. Nathalie Moret, ce message de vœux aux Français, c'est un exercice bilan perspective d'une année sur l'autre. Habituellement,
c'est
il est souvent
de style.
Très consensuel. Cette année, oui, beaucoup moins. Déjà l'an dernier, en 2018, avec les Gilets jaunes.
En fait, chaque année, on fait des papiers d'annonce pour dire, voilà, le président de la République, quel qu'il soit d'ailleurs, va parler. Et son discours est cette année très attendu. C'est ainsi fait qu'aujourd'hui, ce message de vœux à la nation, c'est quasiment devenu le message le plus important d'Emmanuel Macron dans l'année, puisqu'il ne parle pas le 14 juillet. Donc forcément, ce message de vœux revêt avec lui quelque chose de plus important.
Et qu'il n'accorde pas non plus d'interview télévisée.
C'est ça. Donc du coup, c'est quand même un moment important. Ensuite, c'est un passage obligé. C'est un peu un exercice de style. C'est comme au patinage artistique. Vous avez les figures libres, les figures imposées. Là, c'est ça. Donc effectivement, on va pas avoir 17 minutes. Je vous rappelle qu'il a fait 17 minutes l'année dernière et 17 minutes il y a 2 ans. Donc pendant un petit quart d'heure, en tous les cas, on va pas simplement avoir de la retraite. Il peut pas parler simplement que de la réforme des retraites. Il y a des exercices obligés qui sont ceux de la compassion, de la fraternité. Il avait beaucoup insisté là-dessus l'année dernière. Il avait dit qu'il voulait miser sur la fraternité, qu'il regrettait les divisions inconciliables. On était juste après la crise des Gilets jaunes. Un an après, on voit que la société française, elle est tout aussi fracturée pour d'autres raisons que mettre en lumière, de toute façon, toutes les grèves et tout ce qui se passe avec le projet de réforme des retraites.
Alors, au-delà du bilan, des perspectives, effectivement, les syndicats attendent beaucoup de cette allocution du président pour qu'il prenne position. Ils espèrent en tout cas qu'il va prendre position sur cette réforme. Je propose d'écouter le vœu d'Yves Verrier, le leader de Force ouvrière.
Je pense qu'il est temps, grand temps, d'appuyer sur le bouton stop. Je crois que le paquet cadeau, justement, qui avait été vendu au président de la République en campagne à l'époque de ce régime universel par points, avec le célèbre 1 euro cotisé vaudra les mêmes droits, on voit bien que ce cadeau était un bel emballage, mais dès qu'on a défait l'emballage, eh bien, ça fuit de toutes parts, je l'ai souvent expliqué ainsi, et le gouvernement est obligé de colmater les brèches. Et on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas pour telle et telle profession, que ce soit les pilotes, les pompiers. C'était sûr qu'on arriverait à une situation de cette nature. On nous dit on va négocier sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors, mais ça fait longtemps que nous, on a déposé des revendications là-dessus, et c'est là-dessus qu'il faut travailler, plutôt que de défaire le système de retraite qui fonctionne très bien aujourd'hui.
Et Verrier, le leader donc de Force ouvrière, Jeannick Halimi, appuyé sur le bouton stop, c'est un vœu pieux, ça ?
Oui. Oui, en tout cas, demain, il va pas appuyer sur le bouton stop, Emmanuel Macron. C'est le seul élément qui nous est fourni dans la journée, en tout cas de la part de l'Élysée, je le disais tout à l'heure, c'est qu'il va garder le cap. De mon point de vue, je ne sais pas ce que vous en pensez, s'il y a différentes interprétations à donner. Non, il ne va pas annoncer, en tout cas pas demain, il ne va pas annoncer le retrait de sa réforme. Ça me paraît à peu près sûr.
Est-ce qu'il peut donner des inflexions, par exemple, sur l'âge pivot ?
Mais alors, 64 ans, alors dans la mesure où c'est un des éléments, un des chiffons rouges qui a été effectivement un peu un tournant dans le process de cette de l'annonce et de l'explication de cette réforme, puisqu'on sait que c'est une ligne rouge de la part de la CFDT et que le Premier ministre l'a agité au moment de son grand discours, alors que personne ne s'y attendait et que en plus Emmanuel Macron avait dit à la fin août que lui était contre. Donc c'est vrai que c'est une sorte de nœud gordien, cet âge pivot, aussi bien au sein de l'exécutif que l'exécutif vis-à-vis du seul syndicat qui soutenait sa réforme, la CFDT, qui fait que c'est peut-être un élément où, sur lequel Emmanuel Macron va pouvoir se prononcer, peut-être pas en disant qu'il le supprimait, mais peut-être en disant, et d'ailleurs il l'a déjà dit, qu'il était ouvert sur l'âge pivot. Donc, est-ce que demain, il va annoncer 63 ans et demi ? Il va peut-être rappeler qu'il est ouvert, mais je ne pense pas que les modalités et les précisions à la réforme vont pleuvoir demain comme à Gravelotte. Encore une fois, 18 minutes, ça peut paraître long pour des vœux, mais c'est très court pour aborder sur le fond et dans les détails cette réforme extrêmement compliquée. Et puis, Emmanuel Macron, il faut bien se rend compte qu'aujourd'hui, il est à un moment extrêmement compliqué. L'année dernière, les Gilets jaunes, certes, s'en prenaient à lui. Vous vous souvenez, les guillotines qui circulaient ici.
Oui,
là.
Il y avait un véritable sentiment de haine sur les ronds-points.
Il y avait de la haine. Et il y avait aussi une opposition à quelque chose, à une situation qui allait bien au-delà que la hausse de la taxe carbone et qui pouvait englober une situation de la France qui datait depuis 10 ou 15 ans. Donc les appels à l'unité, les appels à la compassion, à la sympathie, y compris avec les Gilets jaunes, pouvaient être prononçables et audibles. Demain, alors évidemment, il y aura les propos traditionnels de l'appel à l'unité, les familles, etc. etc. Mais ça va être compliqué s'il veut garder le cap face à des syndicats, notamment la CGT, qui a été alpaguée, stigmatisée hier par le ministre des Transports, M. Djebari, avec des mots extrêmement forts. On vient d'entendre M. Verrier qui demande stop. Comment voulez-vous
La CGT hier, par la voix de Philippe Martinez, estimait que le gouvernement organisait le bordel. Ce sont ces termes.
Voilà, absolument. Donc comment voulez-vous plaider l'Union nationale avec des camps aussi bien marqués et avec une opposition sur une réforme, pour le coup, avec une Macron touch extrêmement forte. Donc demain, encore une fois, je le répète, ça va être extrêmement compliqué pour Emmanuel Macron de satisfaire tout le monde.
Avec le risque aussi, Florence Ilniki, peut-être de mettre en difficulté son Premier ministre si jamais il y a trop de concessions affichées ou quelques concessions affichées. Parce qu'on a vu Édouard Philippe défendre à bras-le-corps cette réforme et à plusieurs reprises il a employé le terme « je » pour défendre cette réforme.
C'est vrai, mais Emmanuel Macron, jusque-là, il a toujours aimé cette posture sacrificielle. Il aime jouer la sagesse présidentielle pour montrer qu'il est capable d'être la clé de sortie d'un conflit entre des partis dont les positions sont exacerbées. Je crois, Yannick Halimi a raison, que ce n'est pas tout à fait le lieu d'attendre des détails pratiques sur la réforme que ses vœux présidentiels. Je crois qu'il y en a eu de tous les styles. Chaque président de la République a voulu imposer son style. Alors, vous avez eu Valéry Giscard d'Estaing avec sa femme près du feu. Vous avez eu les vœux mystiques de François Mitterrand, mais globalement, ce qui fait qu'on ne retient pas grand-chose généralement de ces vœux, c'est qu'ils sont consensuels, qu'ils sont basés autour de l'unité nationale. En tout cas, je crois que ça n'est pas le moment de faire de la politique politicienne. Je crois que c'est un moment un peu hors du temps pour le président de la République.
En tout cas, hors du temps, en même temps, est-ce que les Français peuvent entendre aujourd'hui un moment hors du temps alors que tous les jours, ils font parfois des kilomètres à pied pour aller travailler ?
Je crois justement que c'est l'occasion d'avoir une parole qui ne s'inscrit pas dans la politique politicienne traditionnelle. Je crois que la parole du politique, elle est usée. Il y a une très grande défiance à l'égard de la parole publique en général. Et c'est l'occasion d'avoir un message qui est un peu différent ici. Je crois qu'il faut se en rappeler. Il y a une leçon à tirer de l'erreur commise par François Hollande, qui a, lors de ses voeux, fait l'annonce de l'inversion des courbes. Il en a été prisonnier tout son quinquennat. Ça n'est pas le moment, les voeux présidentiels, à mon sens, que de faire de la politique politicienne. En revanche, Emmanuel Macron, il a évidemment de quoi apaiser la société. Mais si vous voulez, même si on sait que la communication politique, c'est l'art de la gestion du paradoxe, vous avez deux grandes stratégie politique, l'apaisement ou la fermeté. Et là, on tend à nous dire qu'il y aura un peu des deux. Et c'est en même temps, on voit mal comment il peut véritablement changer la donne dans la perception des Français du président de la République lors de ses vœux présidentiels.
La discussion continue dans un instant. Nathalie Moret, Yannick Halimi, on se retrouve dans un instant juste après. L'essentiel de l'info, 20h20. Stephen Goyer.
La CGT appelle à un blocage total des raffineries du 7 au 10 janvier. Annonce sur France Info du délégué central du syndicat chez Total, Thierry Defresne, contre la réforme des retraites. Les expéditions de carburant sont actuellement bloquées sur deux sites, à La Mède dans les Bouches-du-Rhône et Grand-Puy en Seine-et-Marne, après la poursuite du mouvement voté en Assemblée Générale aujourd'hui. Conséquence de la mobilisation, un trafic au compte-gouttes sur les rails demain. Seulement la moitié des TGV et TER en circulation au 27e jour du mouvement. Un intercité sur cinq sera assuré. Dispositif renforcé pour le passage à la nouvelle année. 100 000 policiers et gendarmes mobilisés demain soir dans tout l'Hexagone, en plus des militaires et des pompiers, annonce du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Attention aux capsules de café des marques Casino, Leader Price et Franprix. D'après la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation, certains peuvent casser sous l'effet de la pression et laisser passer des morceaux de plastique dans la tasse. L'organisme lance un avis de rappel sur les produits concernés et appelle les clients à les rapporter en magasin. Vive tension entre Bolivie et Espagne. Madrid annonce avoir déclaré 3 membres du personnel diplomatique bolivien persona non grata en réponse à l'expulsion de 2 diplomates espagnols par La Paz. La Bolivie accuse l'Espagne d'avoir tenté d'exfiltrer un ex-bras droit du président déchu Evo Morales. Et puis bon bilan pour 2019 pour les salles de cinéma françaises. Deuxième meilleur taux de fréquentation depuis un demi-siècle avec plus de 213 millions d'entrées, en majorité pour des films américains et 35% pour le cinéma français. Un chiffre en recul par rapport à 2018.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Olivia Ferrandi.
Certes, les vœux du président aux Français sont un exercice consensuel. Certes, il est là pour faire un bilan, perspective de l'année passée, de l'année à venir. Mais Yannick Halimi, est-ce que les Français pourraient accepter demain de n'avoir aucune annonce, aucune prise de position d'Emmanuel Macron aujourd'hui sur la réforme des retraites, vu la crise ?
Alors, encore une fois, moi, je ne pense pas que, sauf peut-être une indication sur l'âge pivot, je ne pense pas qu'il va rentrer dans le détail.
Mais est-ce que c'est acceptable ?
Oui, c'est acceptable. En revanche, oui, je pense que c'est acceptable. On n'attend pas du président de la République qu'il soit le mécanicien ou le plombier de service.
L'arbitre,
en revanche,
peut-être.
qu'il aurait dû l'être un peu plus tôt en amont, pendant l'année et demie qui vient de s'écouler, peut-être que ça, c'est un reproche que l'histoire lui fera. Mais là, pour les vœux de demain, je pense que, contrairement peut-être à Monsieur Sielnicki, qui envisageait des vœux hors du temps et de l'espace, en tout cas hors du temps. Non, moi je pense que d'abord la période et tout ce dont on est en train de parler, cette réforme clé, cette France ou cette Île-de-France bloquée, parce que paraît-il que c'est moins grave, en tout cas le gouvernement insiste sur le fait que hors de Paris et l'Île-de-France, tout de même la France est moins bloquée. Mais on va pas s'arrêter là-dessus.
Les liaisons TER empêchent, le fait que les trains régionaux ne circulent pas empêche de nombreux Français d'aller travailler dans les grandes métropoles.
Mais bien sûr. Donc on va pas jouer sur les mots. On est en pleine crise sociale avec une réforme qui a été très très mal préparée. Mais pour en revenir, Olivia, à votre question, le président de la République, de la Ve République, et qu'on connaît, une monarchie républicaine, avec un Emmanuel Macron qui s'est fait élire dans les conditions qu'on connaît, qui a la personnalité qu'on connaît, ne peut pas rester à côté de l'attente qu'on attend de lui. Alors, je répète ce que je dis, c'est un dur exercice, parce qu'il ne peut pas faire croire que tous les Français sont dans le même train, si je puis dire, et que tout le monde sera gagnant de cette réforme. En revanche, il faut qu'il montre le côté positif de cette réforme, et c'est très compliqué parce que malgré les intentions, malgré les éléments structurels de sa réforme systémique dans lesquels il y a des éléments extrêmement de justice, de redistribution, sinon pourquoi est-ce que la CFDT l'avait non seulement soutenue mais inspirée cette réforme? La CFDT, c'est quand même un syndicat ouvrier, de salariés, le premier en France, donc qu'on ne nous fasse pas croire qu'il n'y avait pas des éléments de justice sociale pour faire au sein de cette réforme. Le problème pour le gouvernement qu'il avait mal préparé, qu'il avait mal conçu, qu'il avait mal pensé, c'est que ça s'est retourné contre lui et qu'on estime que c'est une réforme antisociale, etc., etc. Donc, au président de la République à donner un sens qui se veut, sinon de l'Union nationale, ça j'y crois pas, mais en tout cas un sens dans lequel toute une partie de la France aujourd'hui qui pourrait s'y retrouver, s'y retrouve enfin.
Avec peut-être aussi une communication plus claire ces dernières semaines. Je vous propose d'écouter Lionel Causse, député La République En Marche des Landes, et qui a même le titre d'ambassadeur des retraites pour la majorité présidentielle. C'était sur France Info vendredi matin.
C'est un régime universel. Après, il n'est pas uniforme. Mais ça, on l'a toujours dit depuis le début.
Là, vous jouez sur les
mots. On l'avait dit avec Jean-Paul Delevoye, ça fait 2 ans qu'on le dit, qu'on veut un régime universel, c'est-à-dire que les règles soient claires pour tout le monde, mais qu'à l'intérieur de ce régime universel, qui regrouperait les 42 régimes existants aujourd'hui, on aurait, bien entendu, des spécificités.
Mais ça ne rend pas quand même la réforme complètement illisible. On ne rentre pas au même âge dans la réforme, suivant la profession.
Mais non, c'est justement parce qu'on sait que le parcours aujourd'hui de l'activité professionnelle ne démarre pas au même âge, qu'il y a des interruptions, qu'il y a des modifications, que l'on veut s'adapter aux situations actuelles.
Lionel Causse, député de La République En Marche des Landes. Florence Ilniki, un régime universel mais pas uniforme, c'est une communication bien complexe, non ?
Trop complexe, et d'ailleurs ces spécificités, ils ont brouillé et affaibli le message fort qui était ce que les communicants politiques appellent la proposition unique de vente de cette réforme, qui était l'universalité. On avait dit aux Français elle est bonne cette réforme parce que tout le monde sera concerné par un même régime. Or la difficulté, c'est qu'en déminant le terrain social et en acceptant des concessions qui sont d'ailleurs sans doute légitimes auprès d'un certain nombre de Français, eh bien la plus grande majorité des Français se met à douter du message qui leur avait été adressé. Ça, c'est une difficulté.
C'est
évidemment une brèche, mais Emmanuel Macron, il a une chance, et c'est la chance qu'il a depuis son accession à l'Élysée, c'est qu'il a une opposition politique faible et qui n'est pas aujourd'hui tout à fait capable de le déstabiliser, même en s'engouffrant dans les brèches qui sont ouvertes par sa propre majorité. Emmanuel Macron, il a un enjeu fort avec ses vœux, c'est de savoir parler à tous les Français, mais en rassurant sa base électorale, parce que sa flotte, en ce moment, chez En Marche, on l'a vu lors du dernier scrutin qui était engagé en interne, et cette contradiction apparente entre parler aux siens et parler à tous les Français, ça doit être résolu dans un message suffisamment efficace, mais qui va déterminer la capacité d'Emmanuel Macron à pouvoir réformer jusqu'au bout de son quinquennat pour l'année qui vient.
Oui, l'enjeu, Nathalie Moret, c'est effectivement la deuxième partie du quinquennat, c'est aussi le municipal dans 3 mois. Certes, l'opposition est faible, mais du côté Les Républicains, on attend d'ailleurs demain des clarifications, sauf que le parti Les Républicains, il y a beaucoup de réseaux et d'ancrage local, ce que n'ont pas les candidats candidat de La République En Marche pour ces municipales.
Oui, on sait que les prochaines municipales qui auront lieu donc en mars prochain vont être très très difficiles sur le papier, en tout cas pour La République En Marche. On le voit sur les investitures qui ont été lancées, puisqu'effectivement, partout où ils ont nommé, où ils ont investi des candidats qui étaient leurs candidats propres, ils sont à la ramasse, pardonnez-moi l'expression, dans les sondages. Donc oui, ça va être difficile, et on sait bien, vous disiez, Florian, que le président de la République n'avait guère d'opposition, et on va le voir, parce que là, pour ces prochaines municipales, il va y avoir une prime au sortant très très forte, et le Parti Socialiste d'une part, et le Parti Les Républicains d'autre part, qui détiennent la majorité des villes de plus de 10 000 habitants, vont sans doute conforter leur assise. Pour revenir deux secondes sur l'intervention du président de la République de demain, je ne sais pas s'il va parler des municipales. Rappelons-nous que l'année dernière, il avait parlé des européennes. Il était parvenu à avoir un discours de concorde, c'est-à-dire à parler à tous les Français, mais aussi à avoir un discours extrêmement politique, en dénigrant la foule haineuse. Vous rappelez cette expression-là, quand il avait dénigré, enfin quand il avait attaqué la foule haineuse en disant que ça ne ressemblait pas à la France. Et moi, je pense, contrairement à vous, Florian, qu'il peut tout à fait réussir. On verra demain, hein, je ne préjuge pas. Mais le fait de faire un discours en même temps, c'est-à-dire un discours qui soit un discours de concorde nationale, ce qui un exercice un petit peu obligé, et en même temps un discours très politique dans la perspective des municipales et de la réforme des retraites.
Les informer sur France Info, ça continue dans quelques minutes, juste après la météo et l'info.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriqué en France, à retrouver sur malongo.com.
Élodie Calac, Météo France.
Un temps calme demain de la Normandie vers le nord de la Seine, le nord-est, le Berry, le Limousin, les Alpes et la Méditerranée. Le soleil s'imposera vite. Il faudra quand même composer avec des nuages bas et des brouillards. Ils pourraient bien persister toute la journée sur l'extrême nord vers le Val de Saône, la vallée du Rhône ou la plaine d'Alsace. Pas mal de nuages aussi sur le Languedoc-Roussillon, plus morcelé l'après-midi. Et puis sur l'ouest, de la Bretagne vers le sud de la région parisienne, Poitou-Charentes, le sud de la Garonne. Là, ce sera du gris avec des brouillards le matin, quelques gouttes sur le Finistère, puis sur toute la façade océanique l'après-midi. Attention aux gelées le matin, souvent moins 4 à 1 degré. Les brouillards seront parfois givrants sur le nord-est, prudence. L'après-midi, il fera 3 degrés à Metz et Alençon, 4 à Lyon, 5 à Paris, 6 à Lille, Nantes, 10 degrés à Agen, 13 à 7 et 15 à Toulon.
Élodie Calac, Météo France, France Info, 20h30. Toute l'info avec vous, Alexandre Berthaud, bonsoir.
Bonsoir. La grève va se poursuivre le 31 décembre et ça fera 27 jours que le mouvement contre la réforme des retraites a débuté. Les syndicats promettent déjà de poursuivre le mouvement au mois de janvier jusqu'au retrait du projet. Conséquence, évidemment, le trafic va rester très perturbé, Raphaël Ebenstein.
Les liaisons entre Paris et l'Est et le Nord de la France seront les moins affectées par la grève demain avec 3 TGV sur 5 en moyenne. À l'inverse, pour les Ouigo, les TGV low cost, comptez seulement 1 train sur 3, 1 sur 5 à peine en moyenne pour les intercités. Concrètement, il n'y aura par exemple qu'un seul aller-retour Paris-Toulouse, 3 Paris-Clermont, aucun Bordeaux-Nantes. La SNCF promet par ailleurs d'assurer la moitié des liaisons TER, mais en grande partie par bus, avec de fortes variations selon les régions, 30% du trafic en Nouvelle-Aquitaine, 70% en Auvergne-Rhône-Alpes. En Ile-de-France, il y aura à peine un Transilien sur 4 en moyenne, un RER A sur 2 aux heures de pointe, un RER B sur 3. La RATP annonce de son côté l'ouverture partielle, voire très partielle, de 12 lignes de métro aux heures de pointe du matin et du soir, avec au mieux une rame sur deux pour les lignes 4, 7, 9 et 10. Aucun trafic pour la nuit du réveillon, hormis la 1 et la 14, les lignes automatiques qui circuleront jusqu'à 2h15 du matin.
Les précisions de Raphaël Ebenstein, la poursuite de la grève demain, donc jour d'allocution présidentielle. Emmanuel Macron présentera ses vœux aux Français le soir. Peu d'éléments fuités, mais pas de reculade prévue concernant les retraites. Il ne devrait pas rentrer dans le détail de la réforme, communique ce soir l'Élysée. Chez Total, la CGT appelle à un blocage de toutes les raffineries du 7 au 10 janvier. Il faut faire faire en sorte qu'aucun produit ne sorte pendant 96 heures. Ce soir, deux des huit raffineries en France métropolitaine sont déjà bloquées. Le risque de pénurie n'existe pas pour le moment, selon les autorités. La ville de Paris serait en partie responsable de l'explosion de la rue de Trévise. Le 12 janvier 2019, l'accident avait tué 4 personnes et en avait blessé 66. Selon le rapport des experts, la ville a sous-évalué l'affaissement de la route sous le trottoir de la rue, un affaissement à l'origine de la déflagration car il avait entraîné la rupture d'une canalisation de gaz. Ce soir, la mairie indique qu'elle a lancé un audit afin d'établir les différentes responsabilités. L'aéroport de Toulouse-Blagnac repasse sous pavillon français. Selon France Bleu Occitanie, le groupe Eiffage a racheté les parts de la société chinoise Casil Europe. La société de travaux publics aurait déboursé 507 millions d'euros. Elle est déjà concessionnaire de l'aéroport de Lille. Washington veut éviter une escalade avec l'Iran. Un responsable américain joue l'apaisement ce soir, 24 heures après des frappes aériennes de l'armée des États-Unis qui ont tué 25 combattants pro-iraniens à la frontière syrienne. Cette frappe était une réponse à l'attaque d'une base des USA deux jours plus tôt lors de laquelle un Américain avait été tué. Et puis les islamistes somaliens Shebab revendiquent l'attentat de samedi qui a tué 81 personnes. Une attaque à la voiture piégée contre un poste de contrôle de Mogadiscio, la capitale. Les Shebab ont revendiqué l'attentat via un message audio. 20h33 sur France Info, la suite des informés. Olivia Ferrandi.
20h, 21h, France Info, les informés. Olivia Ferrandi.
La seconde partie des informés avec Jenny Calimi, rédactrice en chef adjointe au Parisien aujourd'hui en France, avec Nathalie Moret, journaliste politique au bureau parisien du groupe Ebra, qui regroupe les journaux de l'Est de la France, et Florian Silnicki, fondateur de l'agence de communication de crise, la Frenchcom. On va parler maintenant des personnels hospitaliers. Eux aussi attendent un geste hein, demain d'Emmanuel Macron, plus qu'un geste d'ailleurs, une véritable politique pour l'hôpital public. Aujourd'hui, selon un sondage de notre partenaire Odoxa pour France Info et pour Le Figaro, 54% des infirmiers et des aides-soignantes ne sont pas satisfaits de leur travail au quotidien. Trop de pression, pas assez de moyens et surtout ils dénoncent une gestion comptable des malades. Comme ce manipulateur radio de 49 ans, Pierre, il travaille en pédiatrie à l'hôpital Purpan de Toulouse. Je vous propose de l'écouter.
Il y a eu un resserrement à tous les niveaux. Maintenant, le travail se fait, des fois moins bien, et l'ambiance, elle est pourrie. Parce que la pression, ceux qui dirigent l'hôpital comme une entreprise, comme une simple usine à boulons, à voitures, à ce que vous voulez, ils pensent pas qu'on a, c'est pas des parpaings qu'on a en face, c'est des enfants, des êtres humains. Hein. On charge la mule, on charge, et à un moment donné, quand il y a aucune reconnaissance, que du mépris, pas de moyens, ça me remet en question, voire même de démissionner. Je suis arrivé même à ce stade-là. Je réfléchis pour l'instant.
Gérer l'hôpital public comme une simple usine à boulons, Jeannie Calimi, l'hôpital public risque-t-il de devenir une entreprise ?
Une entreprise privée, vous voulez dire ?
Gérer, voilà, comme privée, comme ce qu'on peut voir parfois dans les cliniques privées.
Oui, bon, écoutez, il y avait déjà cette critique, tout en gardant le statut public avec le budget au forfait, où de toute façon, ces critiques où la rentabilité prenait le pas sur le service public, l'aide aux malades. C'est une critique donc qui s'est déjà installée avant même un éventuel changement de statut auquel je ne crois pas, en tout cas pas à court terme. Mais donc ça prouve bien tout de même ce mécontentement, plus qu'un mécontentement, hein, au sein de l'hôpital public, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça dure depuis des années, voire des décennies. Et alors, il faut quand même raison garder. Emmanuel Macron, on va dire, en a rajouté une raison de mécontentement avec cette réforme des retraites qui touche le personnel soignant, notamment
les aides-soignants,
les aides-soignants et les infirmiers. Les infirmières, on va pas rentrer, mais bon, l'âge est de départ possible est reporté de 3 ou 4 ans. Et puis, il y a des gratifications, je crois, un an tous les 10 ans qui sauteraient. Enfin bon, mais il faut quand même rendre à César, si je puis dire, la crise de l'hôpital public ne date pas de 2 ans et demi. Et ça, je pense que tout le monde le reconnaît. Une fois qu'on a dit ça, c'est très compliqué à gérer. Le gouvernement s'y est pris comme il a pu. La colère, le mécontentement, alors là, pour le coup, dans l'époque contemporaine, puis dire, a commencé avant la réforme des retraites. Vous vous souvenez, la grève des urgences.
C'est mars dernier, effectivement.
Voilà, voilà. Donc ça a
la grève
commencé...
des internes le 10 décembre, qui ont défilé aux côtés, effectivement, des syndicats contre la réforme
voilà,
des
voilà,
retraites.
Voilà, voilà.
Mais Édouard Philippe, à l'automne dernier, avait donné l'impression d'avoir compris le malaise au sein de l'hôpital public en disant les personnels de santé n'en peuvent plus, nous avons entendu leur colère, leur désarroi. Pourtant, le plan d'aide débloqué par la ministre ne satisfait pas aujourd'hui, ne calme pas.
Non, alors ici, Madame Buzyn s'y est pris quand même pas très bien, qu'elle me pardonne, parce que à cette colère qui était extrêmement chaude, virulente, elle
et qui
a
parle
répondu
très concrètement à tous les Français.
Et qui parle à tous les Français. Alors là, s'il y a une chose sur laquelle tous les pouvoirs publics de droite, de gauche, du centre peuvent se retrouver, c'est que la santé et le personnel de santé, qu'ils soient d'ailleurs dans le public comme dans le privé, l'opinion publique et les Français les soutient à 100%. Et dès qu'on veut toucher, sans explication véritable, à un élément de l'architecture de notre système social de santé. François Fillon, candidat à la présidentielle en 2016, vous souvenez, en avait pâti avant même le déclenchement de l'affaire du Penelope Gate. Ça, c'est une parenthèse. Mais pour en venir à Madame Buzyn, elle avait répondu à ce mécontentement par un plan structurel à long terme, les déserts médicaux, la diminution enfin l'augmentation du nombre d'étudiants, mais sont des éléments qui ne portent leurs fruits que dans 10 ou 15 ans. Après, elle a compris qu'il fallait une réponse d'urgence. Elle avait débloqué une enveloppe, je crois, alors de moins de 100 millions d'euros dérisoire. Est venue une nouvelle mesure, tout ça en l'espace de quelques semaines, avec un plan d'investissement extrêmement important, avec des effets assez immédiats.
Oui, puis un système de primes, 800 voilà. euros pour les infirmiers en Ile-de-France, 300 euros pour les
voilà.
personnels.
Et exactement, avec des logements, etc., etc. On voit que tout ça ne suffit pas à éteindre la colère, le mécontentement. C'est très compliqué de réformer. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Mais là, encore une fois, vous aviez raison. L'opinion publique qui peut-être peut se désunir sur les régimes spéciaux de la SNCF, de la RATP ou des pilotes de ligne, là, je pense que tout le monde est d'accord pour soutenir la mobilisation de ce personnel, du personnel soignant en général.
Florian Simnicki, en termes de communication de crise, là, le gouvernement a-t-il fait une faute par rapport à l'hôpital ?
Il y a eu une communication un peu kamikaze sur le plan politique de cette ministre qui n'a pas su valoriser l'effort qui était important, qui était déployé par son gouvernement. La difficulté, c'est que évidemment l'hôpital est en crise, évidemment il y a une pression budgétaire, évidemment vous avez des conditions de travail qui se sont dégradées ces 20 dernières années. Ce gouvernement, il n'en est pas responsable, mais il porte aujourd'hui la charge de donner un nouvel espoir aux soignants et aux équipes paramédicales. Et les classements des rémunérations, notamment, ils nous disent que nos aides-soignants et nos infirmiers sont parmi les plus mal payés de l'OCDE. Ça dit quelque chose parce que ça rappelle une situation qui est celle des enseignants dans notre pays, qui sont eux aussi parmi les moins bien rémunérés des pays de l'OCDE. Ça dit donc la marge de manœuvre qu'on a, même si ça n'est pas qu'une question budgétaire. On sait que le privé s'est quand même beaucoup immiscé dans l'univers médical avec la multiplication des PPP, vous savez, ces partenariats publics-privés, qui n'ont pas toujours d'ailleurs rencontré un très grand succès. Mais en même temps, et je crois qu'il faut le souligner, parce que ça c'est mon côté optimiste, on a l'hôpital public, et je crois que seul l'hôpital public est capable de réaliser de tels exploits, réussi la séparation de Siamoise il y a quelques semaines, et c'est un exploit médical magnifique qui est réalisé par l'hôpital public à Lyon, avec la chaîne de l'espoir. Ça dit le potentiel exceptionnel
de l'hôpital public.
Exactement.
C'est ce que demandent effectivement les différents syndicats. Dans le sondage Odoxa pour France Info et Le Figaro, 92% des personnes interrogées pensent que la situation à l'hôpital va empirer en 2020. Là encore, le chantier est vaste. Pour le gouvernement, on reprend cette discussion dans quelques instants. 20h40, toute l'info, Stephen Goyer.
Pas de répit contre la réforme des retraites côté cheminots. Seulement la moitié des TGV et TER en circulation demain. Un intercité sur 5 assuré et un quart des transiliens en région Île-de-France. Côté métro parisien, deux lignes seront totalement fermées, la 7 bis et la 13. La CGT hausse le ton sur le dossier retraite. Le délégué central du syndicat chez Total, Thierry Defresne, annonce à France Info l'appel à un blocage total des raffineries du 7 au 10 janvier. Deux sites sur 8 dans l'Hexagone sont actuellement concernés par des blocages. blocage des expéditions de carburant. La mairie de Paris contre-attaque et réclame un audit sur l'explosion de la rue de Trévise, mise en cause dans un rapport d'experts pour la gestion de la voirie. À l'origine de la rupture d'une canalisation de gaz, la municipalité renvoie la responsabilité à la mairie du 9e arrondissement. Le 12 janvier, l'explosion avait fait 4 morts et 66 blessés. Nous sommes plus de 66,5 millions dans l'Hexagone. L'INSEE dévoile les résultats du recensement réalisé entre 2007 et 2017. Sur cette période, la population a augmenté d'un peu moins de 300 000 personnes chaque année. Les chebabs somaliens revendiquent l'attentat à la voiture piégée de Mogadiscio. Les islamistes expliquent avoir visé un convoi de mercenaires turcs. Une attaque samedi contre un poste de contrôle dans un quartier très fréquenté de la capitale somalienne qui avait fait 81 morts. TF1 en tête des audiences 2019, mais avec le pire score de son histoire, avec 19,5%. La première chaîne passe pour la première fois sous la barre des 20%. Année record en revanche pour les audiences d'Arte et de l'équipe.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Olivia Ferrandi.
Et retour maintenant sur la polémique autour de Gabriel Matzneff, l'écrivain aujourd'hui âgé de 83 ans, qui s'était vanté en 1990 sur le plateau de l'émission Apostrophe de ses goûts, en particulier pour les très jeunes femmes, les moins de 16 ans, sans provoquer à l'époque d'indignation, à l'exception de l'auteure canadienne Denise Bombardier, pour laquelle la littérature ne peut pas tout justifier. Denise Bombardier qui disait à l'époque à Gabriel Matzneff qu'il aurait des comptes à rendre à la justice. Aujourd'hui, si cette séquence a enflammé les réseaux sociaux, frôlant le million de vues, 900 000 vues, un peu plus de 900 000 vues actuellement. C'est parce qu'un livre sort le 2 janvier prochain, livre intitulé Le consentement, écrit par Vanessa Springora, qui à l'époque avait 14 ans et qui a eu une relation avec Gabriel Matzneff en 1986. Elle se dit aujourd'hui abusivement séduite et victime d'un prédateur. Jannick Halimi, dans les colonnes du Parisien. Aujourd'hui, Gabriel Matzneff a répondu aux questions du Parisien. Il dénonce des attaques injustes et excessives.
Écoutez, que Monsieur Matzneff continue à parler, comme ça au moins, je veux dire, l'évidence crèvera les yeux. Excessive en quoi ? Enfin, je pense que Monsieur Matzneff continue à assumer ce qu'il a fait. Est-ce qu'il fait semblant de ne pas comprendre, parce que peut-être ne comprenait-il pas en 90, mais là, s'il n'a pas compris ce qu'il a fait 30 ans après, c'est qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de Monsieur Matzneff. Donc, voilà, qu'il continue à parler, il est en train de creuser la tombe de son honneur chaque fois qu'il ouvre la bouche.
Le livre de Vanessa Springora sortira donc le 2 janvier. Très peu d'exemplaires ont pour l'heure été distribués à la presse. Nathalie Moret, au groupe Ebra, vous avez reçu ce livre. Vous l'avez longuement feuilleté aujourd'hui. Que contient-il ? Que raconte-t-elle ?
Alors, il a été envoyé à ma collègue Nathalie Chifflet. Effectivement, j'ai lu le livre cet après-midi. La première chose à savoir, c'est que c'est un excellent livre. C'est quand même important à savoir parce que c'est pas simplement un livre dont on va parler parce que c'est un coup, etc. Non, c'est d'abord un beau livre, un récit très fort de la part de quelqu'un qui fait là un exercice peut-être personnel, mais avant tout un exercice littéraire. C'est la première chose à dire. Ensuite, le livre, c'est un court récit qui est séparé, qui est composé de 4 parties. Elle raconte son enfance, qui explique selon elle pourquoi elle est tombée totalement sous l'emprise de cet homme qu'elle ne cite que par ses initiales GM.
C'était une. Elle ne dit jamais son nom.
Jamais. Elle raconte qu'elle avait un père absent, qu'elle avait un grand goût pour la lecture, qu'elle était très isolée et qu'elle avait un immense besoin d'être regardée. Et fatalement, quand sa mère, qui travaille, je crois, dans le milieu culturel, lui présente au cours d'un dîner cet auteur, elle est totalement subjuguée par cet homme qui la regarde, qui la considère et qui lui envoie plusieurs lettres par jour en lui disant qu'elle est extraordinaire, etc. Donc forcément, elle tombe sous son charme et elle dit « Il était tout ce qu'on apprend aujourd'hui dès l'enfance, cet homme était un ogre ». C'est extrêmement fort, c'est un récit chirurgical qui ne donne pas dans le tape à l'œil, qui raconte juste à quel point cette femme, qui a aujourd'hui quasiment 50 ans, je crois, 47 ans, a eu du mal à se défaire des années après de l'emprise de cet homme et à quel point elle a eu du mal à se reconstruire en tant que femme. Elle dit aussi que le fait d'avoir eu un enfant l'a beaucoup aidée puisque ça l'a renvoyée à ce qu'elle était à l'époque. C'est un livre absolument bouleversant qui, j'espère, sera lu pour ce qu'il est, c'est-à-dire une œuvre avant tout littéraire.
Florian Silnicki, la publication de ce livre aujourd'hui vous semble-t-elle possible grâce en partie au mouvement MeToo et la libération de la parole.
Je vais vous dire, chaque année, on me demande quelle est la pire communication de crise de l'année. Cette année, je n'aurais aucun mal à donner le trophée de la dégueulasserie en matière de défense à Monsieur Maznev. Qu'il soit un prédateur, qu'il soit un pédocriminel, tout cela s'était acquis parce que il le revendiquait. Et cette façon de l'étaler de manière décomplexée, elle était étonnante à l'époque, elle l'est encore plus aujourd'hui. Comme communicant de crise, j'ai souvent à dénoncer un tribunal digital, un tribunal médiatique qui intervient brutalement avant que le tribunal judiciaire n'ait eu à se prononcer et à établir les culpabilités. Je veux dire qu'ici, l'indignation, elle est saine sur les réseaux sociaux et elle permet, au fond, de montrer que des chapitres sont fermés et qu'il y a l'inacceptable qui peut être dénoncé avec la manière la plus forte et la manière la plus unanime socialement possible. Et ça, c'est assez chouette à saluer et je voulais le dire ici.
Vanessa Smagora, elle cite l'émission Apostrophe dans son récit. Elle raconte les mots employés par Bernard Pivot qui l'ont choquée. Elle raconte Denise Bombardier. C'est aussi pour ça que cette séquence sort aujourd'hui. C'est parce qu'elle le cite assez longuement dans le livre, à quel point elle en a été choquée, bouleversée. Et ça a été, je crois, un élément tout à fait marquant dans sa vie.
Pour vous, l'importance du mouvement MeToo ces derniers mois, ces dernières années maintenant, n'est pas l'élément déclencheur.
Mais non, pas du tout. En tous les cas, dans ce qu'elle raconte, non. L'élément MeToo, c'est important parce que c'est la parole qui se libère sur les violences faites aux femmes. Là, on parle de pédocriminalité. Ça n'a rien à voir. Ce sont des violences sexuelles, certes, mais on ne parle pas de violences faites aux femmes. On parle de crimes, tout simplement, qui ont été, j'allais dire, étouffés par un certain milieu littéraire. Elle décrit parfaitement le processus, Vanessa Smagora, pardon, dans son livre. Et elle pose une question centrale qui est celle du consentement. C'est le titre du livre. Le consentement. À quel point cette jeune fille, 14 ans, qui était consentante, elle est allée dans des chambres d'hôtel, elle s'est offerte à cet homme, elle était parfaitement consentante, mais jusqu'à quel point on peut l'être à 14 ans? C'est la question qu'elle pose dans ce livre. C'est absolument bouleversant.
Et c'est encore une question d'actualité aujourd'hui, Jeannie Calimi.
Oui, non, vous disiez le mouvement MeToo, au-delà du fait que la pédocriminalité, ça ne touche pas que d'abord pas des femmes, plutôt des enfants ou des jeunes filles, mais aussi des jeunes garçons. Et d'ailleurs, Gabriel Maznev en revendique également, ça c'est une chose. Il y a quand même eu aussi d'autres émeulants, alors plutôt à plus long terme, mais enfin qui ont participé à la prise de conscience de cette fameuse opinion publique, n'est-ce pas, qui ne pouvait pas capter l'horreur de la chose il y a 30 ans. Il y a notamment tout ce qui a été dit, même si c'est avec énormément de freins et de tout ce qui a été dit au sein de et prise de conscience au sein de l'Église catholique, au sein de milieux sportifs. Il y a aussi toutes ces affaires judiciaires sur alors là, ce n'était pas le cas, mais ça touchait aux enfants sur les incestes. Donc il y a eu cette prise de conscience et cette prise de conscience aussi de la culpabilité de certains milieux, je pense à l'Église, y compris par l'Église elle-même, qui fait que tout ça apporte également à cette affaire sur le devant de la scène, au-delà de l'écriture du livre. Je voulais juste terminer peut-être sur justement, oui, mais à l'époque, l'opinion publique ne comprenait pas ça.
On va reparler dans un instant parce que c'est déjà l'heure du rappel de l'info, il est 20h50. Toute l'info, Steven Goyer.
Vers un blocage total des raffineries, appel en tout cas lancé par la CGT sur France Info entre le 7 et le 10 janvier contre la réforme des retraites pour faire en sorte qu'aucun produit ne sorte pendant 96 heures d'après les mots du délégué du syndicat chez Total, Thierry Dufresne. Trafic toujours au ralenti sur les rails. Demain, la moitié des TGV et des TER annoncés en circulation par la SNCF. Les liaisons TER seront assurées par autocar. Comptez également un intercité sur 5 au 27e jour de mobilisation des cheminots contre la réforme des retraites. Dispositif policier renforcé pour la nuit de la Saint-Sylvestre avec 100 000 forces de l'ordre mobilisées dans tout l'Hexagone demain soir. Annonce du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. C'est 48 000 de moins que l'année passée en pleine crise des Gilets jaunes. Eiffage, nouvel exploitant de l'aéroport Toulouse-Blagnac. le groupe de travaux publics a racheté les parts de Casil Europe. La société chinoise, actionnaire principale de l'infrastructure depuis 2014, réalise un bénéfice de près de 200 millions d'euros dans la vente après avoir racheté les parts de l'État il y a 5 ans. La question libyenne au cœur des discussions entre Emmanuel Macron et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Les deux chefs d'État disent craindre les risques d'une escalade militaire dans le pays après l'annonce d'un déploiement militaire turc pour soutenir le gouvernement de Tripoli face au maréchal Haftar. Une bonne année pour les salles de cinéma françaises, plus de 213 millions d'entrées en 2019, deuxième meilleur niveau en plus d'un demi-siècle, succès tiré par le cinéma américain. La part des films français est en recul par rapport à 2018.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Olivia Ferrandi.
Et on poursuit la discussion autour de la polémique avec Gabriel Masneff, l'écrivain aujourd'hui âgé de 83 ans, qui s'était donc vanté sur le plateau de l'émission Apostrophe en 1990 de ses goûts pour les très jeunes femmes, les moins de 16 ans, sans d'ailleurs provoquer de réaction, sauf celle donc de l'écrivaine canadienne Denise Bombardier. Autre temps, autre mœurs, avait souligné Bernard Pivot dans les années 70 et 80. La littérature passait avant la morale, dit l'ancien animateur d'Apostrophe. Ce n'est plus entendable aujourd'hui. Bernard Pivot qui regrette désormais de ne pas avoir eu à l'époque les mots qu'il fallait, Jeanne Calini.
Bah bon, il serait temps parce qu'il a quand même beaucoup de repentir sur ces 30 dernières années et sur la semaine qui vient de s'écouler. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de considération pour Bernard Pivot et de gratitude pour tout ce qu'il a apporté dans les foyers français dans les années 70, 80 et 90. Mais là, il s'est complètement trompé. D'abord parce que à l'époque, l'opinion publique ou pas, parce que il y avait un âge pénal qui était supérieur à 14 ans déjà à l'époque. Donc déjà, on dit souvent la société est en avance sur la loi. Je ne sais pas qui est en avance et qui est en recul. En tout cas, il y avait une loi. Donc c'était pas totalement désenraciné, désincarné que cette notion d'enfant, de responsabilité sexuelle. Première chose. Deuxièmement, Bernard Pivot ou Simone de Beauvoir ou Roland Barthes ou Aragon ou un ancien ministre de la Culture qui avait soutenu Monsieur Masneff, enfin, qui avait plus que soutenu, enfin, qui applaudissait aux écrits de Gabriel Masneff, ce sont des intellectuels. Ils n'ont pas à suivre l'opinion publique ou les mœurs. Ils ont au contraire cette fonction dans la société d'être des vigiles, et avoir l'esprit critique. Donc, on pouvait s'attendre quand même de leur part, au moins, si ce n'est à tomber à bras raccourcis sur Monsieur Masneff, au moins à poser des questions qui fâchent, comme l'a fait Madame Bombardier.
Et troisièmement, c'est sur Madame Bombardier qu'ils sont tombés.
Et ils sont tombés,
oui, parce qu'à l'époque,
sur Madame Bombardier,
sauf l'auteur.
Et en plus, et ceci n'est, comme le disait, alors avant qu'il ne se reprenne Bernard Pivot, la morale avant la littérature. Mais est-ce que Gabriel Masneff, c'est de la littérature? Enfin, vous avez lu, je suis en train de relire Monsieur Masneff, ce n'est pas André Gide. Bon, donc je ne sais pas si c'est de toute façon un argument valable qu'avançait celui de... Il ne l'était pas pour moi, Bernard Pivot, mais en plus ce n'est même pas de la littérature.
Décoré par Jacques Toubon, Gabriel Masneff, alors ministre de la Culture, en 1995, il avait été fait officier des Arts et des Lettres. Il est également chevalier de l'Ordre du Mérite. Nathalie Moret, aujourd'hui, Franck Riester, l'actuel ministre de la Culture, envisage de revoir le versement d'une allocation qui est attribuée par le Centre National du Livre pour les écrivains en difficulté. Allocation dont bénéficie Gabriel Masneff. On est vraiment dans le changement de ton, là.
Oui, on voit bien que ce qui est en train de se passer, là, à chaque fois qu'il y a ce genre de livres qui sortent, qui sont des coups de poing, ça fait avancer les choses. Et peut-être qu'au lieu de se demander si Gabriel Masneff est un grand auteur, s'il a besoin d'avoir cette allocation ou pas, on peut peut-être aller voir plus loin en disant mais qu'est-ce qu'on peut changer aujourd'hui? Est-ce que justement sur ce qu'est le consentement d'un enfant ou pas, est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'il y a des choses à faire au niveau de la loi pour faire avancer ça? C'est ça à quoi ça doit servir, ce qu'on est en train de vivre. C'est à se poser les vraies questions et que ça n'arrive plus jamais. Il y a une différence entre les œuvres qu'on ne doit pas juger et les personnes qui les portent. Et malheureusement, moi, je juge pas l'œuvre de Gabriel Masneff, mais en tous les cas, son attitude doit l'être. Absolument, je pense. Et encore une fois, le livre de Vanessa Spingora est absolument... c'est pas du tout quelqu'un qui... Elle ne s'épargne pas dans le livre. Hein. C'est pas du tout quelqu'un qui est dans l'attaque de l'ogre qu'elle décrit. Pas du tout. Elle décrit les choses choses de façon extrêmement clinique, extrêmement sobre, et elle décrit son chemin pour que justement ça serve à d'autres gens et que ça n'arrive plus.
Florence Sénic, qu'est-ce que le monde de la littérature doit faire son autocritique ?
Ah, c'est évident. En tout cas, le chapeau qui était mis sur tous ces ogres, ces prédateurs, eh bien, il a sauté. Et chacun doit en avoir conscience. En tout cas, je salue la réaction de Franck Riester, le ministre de la Culture. Ça me paraît être une bonne réaction pour faire avancer les choses. Les pouvoirs publics, ils doivent être à cet égard tout à fait exemplaires dans la lutte contre les atteintes faites à l'intégrité des enfants. J'ai lu Maznev, moi je le connaissais pas, j'ai eu l'impression et le sentiment de lire ce qu'on pourrait lire aux assises, c'est quand même la description de viol, je vois pas exactement en quoi ça pourrait être salué, ni en quoi ça pourrait être sain. Sur la question du consentement, je trouve que le fait que cette femme qui a été victime de ce pédocriminel dise qu'elle a pu être consentante, ça dit aussi beaucoup de la question du fait de s'assumer comme victime. On sait à quel point il est difficile pour les victimes de s'assumer comme victimes. Je trouve qu'on en a l'illustration. Moi, je considère, mais c'est très personnel, qu'à 14 ans, on n'a pas un consentement éclairé sur ce que peut faire un violeur.
C'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle était sous emprise et elle décrit pourquoi elle l'était. Je conseille le livre.
Moi, personnellement, enfin, je pense que c'est le cas. Il ne s'agit pas d'interdire des livres comme ceux de Gabriel Maznev et bien d'autres qui peuvent être pires. Enfin, en tout cas, ce n'est pas ça que j'ai en tête.
Non, mais si on peut ne pas les indemniser pour leurs horreurs, c'est pas
mal. Oui, ça, Riester, je ne sais pas quelle est la loi en l'occurrence, mais en tout cas, c'est une bonne question qui se pose. J'ignore quelle peut être la réponse au regard de la loi. Mais encore une fois, les horreurs qui peuvent être écrites, il n'est pas question, bien sûr, de les interdire. Après, selon la loi, de toute façon, il y a prescription, qu'on puisse interdire la publication ou la diffusion ou en faire la publicité, comme ça peut être le cas, même après prescription. Pourquoi pas ? Après, il y a la loi, les procès judiciaires qui peuvent se mettre en branle, et puis surtout l'esprit critique des uns et des autres.
Et la fin d'une certaine complaisance, peut-être.
Voilà, exactement.
Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, indiquait hier dans le journal du dimanche qu'il avait demandé à ses services d'étudier si des suites judiciaires pouvaient être envisagées tout de même contre Gabriel Maznev.
Nous verrons donc question.
Ce que ça donne dans les semaines à venir. Les informés, c'est terminé pour ce soir à la une demain du Parisien, Jeannick Aldini.
Eh bien, les vœux d'Emmanuel Macron, bien sûr.
La une des journaux du groupe Ebra, demain Nathalie Morel.
On fait un grand dossier sur tout ce qui va changer dans la vie quotidienne des Français en 2020. Ça va du plastique au Brexit, etc.
Merci Nathalie Moret, merci Jeannick Aldini, merci à vous Florian Silnicki, fondateur de l'agence de communication de crime La French Com.